ouais, bien sûr.
Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
The sun, it shines for you. The grass is green, the sky is blue. And there you are.
Bonjour, veille d'élection aux Pays-Bas. Le 15 mars, les Néerlandais vont élire leurs dirigeants provinciaux. Un vote qui définira les équilibres politiques au Sénat. Le système électoral profite traditionnellement aux petits partis qui pèsent de plus en plus sur les choix politiques de ce petit pays densément peuplé. Le mouvement agriculteur citoyen, le BBB, qui porte la parole d'un monde agricole en rupture avec le pouvoir néerlandais, a ainsi le vent en poupe, comme le parti animaliste, désormais bien installé dans le paysage politique. C'est un reportage d'Antoine Moutot.
Honte à vous, vous avez du sang sur les mains. Ce slogan, c'est celui scandé par des membres du Partij voor de Dieren, le parti pour les animaux, aux abords d'un terrain de golf de Haarlem, près d'Amsterdam. À l'aide de haut-parleurs et à travers les grilles du club, il s'adresse directement aux golfeurs, visiblement très surpris.
Chers golfeurs, nous sommes ici parce que votre club de golf abat chaque année près de 500 lapins. Et ça, pour le divertissement des humains. Nous sommes d'avis que vous pouvez très bien faire du golf ici sans tuer les lapins. Sinon, il faut aller jouer ailleurs.
Le groupe proteste contre l'abattage de lapins censé éviter que ces derniers ne creusent des cavités sur le parcours de golf situé à proximité d'une zone naturelle. L'homme au haut-parleur n'est autre que Mark Hanou, troisième sur la liste du parti pour les animaux pour les élections du 15 mars dans la province de Hollande-Septentrionale. À ses côtés plus réservés, la tête de liste Inès Kostik écoute avec attention les discours très activistes de ses camarades.
Ces gens ne doivent pas forcément arrêter de faire du golf. Il faut simplement qu'ils prennent en compte les animaux qui vivent ici, comme les lapins. Voilà ce que nous demandons. Et puis lorsque les gens réalisent le sort réservé aux lapins, ils comprennent rapidement que cette pratique n'est pas compatible avec un pays civilisé.
À bord de leur vélo et reconnaissable à leur veste blanche flanquée du logo du parti, un papillon sur fond vert, ils font le tour de la province dans l'espoir de convaincre les électeurs de voter pour leur formation. La seule à vraiment représenter tout le monde, à en croire Inès Kostik.
Nous nous appelons le Parti pour les animaux, et d'un point de vue biologique, nous sommes tous des animaux. Nous sommes en fait le seul parti à être dédié à tous les animaux, les humains, comme les autres animaux.
Fondé au début des années 2000, le Partij voor de Dieren a été en 2006 le premier parti animaliste au monde à entrer dans un parlement national. À l'époque, il s'était notamment fait connaître en réclamant l'introduction de chats dans l'hémicycle afin de remplacer le poison utilisé pour lutter contre les fréquentes infestations de souris. Longtemps considéré comme un petit parti farfelu, il compte désormais 6 sièges de députés, 3 sièges de sénateurs et 1 siège de redéputés.
De plus en plus de personnes se rendent compte que nous avons un programme très large pour une économie qui fonctionne bien pour tous, pour le bien-être de l'humain et de l'animal, pour la nature, pour le climat.
À une centaine de kilomètres de là, dans le lieu-dit de Mosthuyvel, près d'Eindhoven, dans le Brabant septentrional, c'est dans une toute autre ambiance que Caroline van der Plas mène sa campagne. Pour accueillir l'un de ses principaux meetings électoraux, elle a choisi une simple ferme.
Merci beaucoup. Il y a du monde, dites-moi. Je m'étais dit, ah, on va dans le Brabant, ce sera un petit groupe, ce sera sympa et agréable. Et en effet, vous êtes un super groupe.
En face d'elle, plusieurs dizaines de personnes, pour la plupart des agriculteurs, qui ont récemment adhéré à son nouveau parti, le BBB, la Boerburgerbeweging, en français le mouvement citoyen paysan.
Je voudrais vous dire que je suis vraiment très impressionnée par tout ce que chacun met en œuvre pour le BBB. Des centaines de bénévoles à travers tout le pays qui accrochent des banderoles, collent des affiches et distribuent des tracts. Toutes ces personnes qui croient dur comme fer en notre parti.
Né de la contestation paysanne de ces dernières années, le mouvement citoyen paysan est farouchement opposé à la politique de protection de l'environnement de la haie. Il promet de s'opposer au projet du gouvernement qui vise à réduire drastiquement le cheptel néerlandais et surtout à exproprier de très nombreux agriculteurs. Dans ce contexte, une partie d'entre eux voit en Caroline van der Plas leur planche de salut.
Je comprends leurs incertitudes et leur désespoir. Et eux comprennent que je ne peux pas faire de miracle, que je n'ai pas de baguette magique. Mais cela faisait tellement longtemps que les agriculteurs et les problèmes n'étaient plus écoutés. Tout ce qui pèse sur eux en ce moment, l'incertitude sur l'avenir de l'entreprise ou sur la possibilité de la transmettre à leurs enfants.
Selon les sondages, parti de rien, le mouvement citoyen paysan pourrait arriver premier dans au moins 5 provinces sur 12, les très rurales Drenthe, Overijssel, Groningue, Frise et Gueldre. Selon Simone Hotjes, politologue à l'université de Leiden, cette percée s'explique notamment par le fossé de plus en plus criant entre villes et campagnes néerlandaises.
C'est lié en partie au fait que les personnes vivant à la campagne aux Pays-Bas ont l'impression de ne pas être bien représentées, que la politique est gravement axée sur les intérêts de la ville, que l'intérêt de la construction passe avant celui des zones rurales où la situation de la population se détériore.
Avec leur petite superficie, mais leur population de plus de 17 millions d'habitants, les Pays-Bas sont en effet confrontés à un problème d'espace. Le pays fait face à une grave pénurie de logements et doit aussi composer entre protection de ses zones naturelles d'un côté et agriculture intensive de l'autre. Et comme le pays, le paysage politique est de plus en plus fragmenté lui aussi. Dans ce contexte, des petits partis comme le Parti pour les agriculteurs et le Parti pour les animaux sont pris au sérieux et sont de plus en plus un casse-tête pour le gouvernement de coalition de la droite et du centre de Mark Rutte.
Rendez-vous dans le bassin minier français, dans une ancienne zone industrielle considérée comme étant la plus polluée de France en 2003. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, la pollution n'a pas disparu. Nous sommes dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France. C'est là qu'était installée depuis des décennies la fonderie Metal Europe, qui a rejeté des tonnes de métaux lourds, notamment du plomb, dans l'air. 5 communes, soit 25 000 habitants, sont concernées par une restriction de l'usage des sols à cause de la pollution. Une association se bat depuis 10 ans et accuse l'État de carence, Lise Verbeck.
En plein bassin minier, la commune d'Evin-Malmaison, 4500 habitants, se trouve à 1 km à vol d'oiseau de l'ancienne fonderie Metal Europe. Dans la cour de l'école maternelle, le toboggan, la bande de terre autour des arbres sont interdits d'accès. Ces zones sont délimitées par de simples piquets en bois et des rubans rouges et blancs qui plient au vent.
Bon, il a fallu quand même insister pour que ce soit fait.
Marc Varupen habite ici depuis plus de 30 ans.
Suite aux analyses qui ont été faites sur le terrain, on s'est rendu compte que ça atteignait deux fois les normes. Et avec des enfants petits, ben, ils allaient forcément porter à la bouche, en jouant dans la terre, leurs mains et puis s'imprégner de métaux lourds.
Ces protections temporaires ont été installées suite au reportage d'un journaliste scientifique, Martin Boudot, pour l'émission Vert de Rage sur France Télévisions il y a un an. Il a relevé des taux de plomb encore bien supérieurs à la norme autorisée dans la terre, un peu partout sur la commune. Son travail a forcé la préfecture et l'agence régionale de santé, l'ARS, à mener une campagne pour dépister le plomb dans le sang des enfants. Et c'est ce que réclamaient Bruno Adolfi et son association qui se bat depuis 10 ans pour que l'État prenne cette pollution au sérieux.
Un dépistage de plombémie a eu lieu cet été, qui s'est terminé fin octobre. 7000 enfants avaient été recensés par l'ARS. Il y a eu 1800 dépistés, pas suffisamment d'enfants dépistés malheureusement, mais il y a 8 cas de saturnisme et plus de 70 enfants en situation de vigilance. Donc, le saturnisme qui frappe les enfants dans leur évolution intellectuelle, perte de QI, hein, anémie, problème de santé important. Donc, ça touche des innocents, c'est des enfants qui ont tout juste 2 ans. Et l'ARS ne veut absolument pas reconnaître que la seule source d'exposition, c'est le terrain.
En 2001, la DREAL, un service de l'État, indique dans un rapport que l'usine a, je cite, « été depuis un siècle à l'origine de rejets considérables de plomb, cadmium et zinc qui ont entraîné une pollution des sols d'une ampleur singulière ». Pour Bruno Adolfi, s'il y a eu des sanctions, elles étaient insuffisantes. L'usine employait 800 personnes.
À partir du moment où des mises en demeure étaient dictées au niveau de l'usine, ça n'était pas respecté derrière, de par le nombre d'emplois qui étaient dans cette usine. Il y avait un chantage à l'emploi de façon à pouvoir maintenir l'usine en place et éviter de faire justement les travaux qui ont permis à cette usine de beaucoup moins polluer et d'avoir justement aujourd'hui des terrains sur lesquels on pourrait vivre d'une façon tout à fait décente.
La préfecture du Pas-de-Calais, qui n'a répondu à aucune de nos sollicitations, gère ce dossier avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement. En 1998, elles ont mis en place un plan d'intérêt général sur les 5 communes proches de l'usine. Ce plan délimite les zones plus ou moins polluées.
L'usine ferme en 2003 et de nouvelles analyses sont faites. Et là, l'ADEME pensait que la pollution aurait plus ou moins disparu du fait de l'arrêt de l'activité de l'usine, mais au contraire, les zones disons concentration ont été augmentées d'une façon considérable, comme vous pouvez le voir sur cette carte, où deux zones ont été délimitées. Une première zone ici, qui est la zone 1, où les sols contiennent au moins 1000 ppm de plomb, et la norme, c'est entre 100, on va dire 200 maximum. Et une deuxième zone ici, en bleu, où les taux de pollution de plomb sont compris entre 500 et 1000. Et ce qui est surprenant, vous pouvez voir ici que cette personne qui se trouve là est considérée être en zone non polluée. Il faut qu'on arrête de se fiche du monde, c'est un peu comme Tchernobyl, où la pollution s'est arrêtée à telle frontière.
Franck Ledru, lui, habite depuis 2010 à Évin-Malmaison. Sa maison s'est retrouvée 4 ans plus tard cartographiée dans la zone 2, zone polluée.
J'ai même un voisin qui a une maison. Donc sa maison est dans la zone 500 et son garage est dans la zone non polluée. Vous voyez un peu l'aberration du système. Donc s'il veut vivre, dans une zone non polluée, il faut qu'il vive dans son garage. Vous voyez. Donc le problème, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que cette zone qui est toujours polluée, avec les vents, malheureusement, peut-être continue à empoisonner la ville.
Depuis qu'il a appris la pollution de la commune, l'inquiétude est toujours présente, une angoisse sourde.
Pendant ces années, j'ai travaillé dans mon jardin, j'ai construit un bassin, etc. Bon, mes enfants étant petits, forcément, on jouait à la terre. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, on était dans la méconnaissance la plus totale, voilà, c'est ça. Et on a pris des risques, il ne faut pas rêver. Moi, au départ, je faisais un potager, parce que bon, pour avoir quelques légumes. Et puis après, j'ai renoncé, parce que bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas la peine. Je peux pas prendre de risques.
L'association a attaqué en justice l'État pour inaction et pour faire reconnaître le préjudice sur l'environnement et sur la santé. Un combat long et difficile pour Marc Varupen, qui est très en colère.
Il n'y a pas d'information de la préfecture, ni quoi que ce soit. C'est juste, vous lavez vos légumes 2 ou 3 fois plutôt qu'une fois. Mais il y a une rage de se dire on n'a pas été prévenu, on aurait pris plus de précautions. En vie, on ne sait pas quel danger on court. On couvre tout ça, on ne veut pas en parler, on veut enterrer pour qu'on les laisse tranquilles. Mais non, ça suffit.
L'association et ses lanceurs d'alerte tentent de mobiliser la population, mais beaucoup sont résignés. Ils étaient plus de 80 requérants lors de la première audience au tribunal administratif. Après avoir été déboutés, ils sont aujourd'hui 55 à poursuivre le combat en justice en ayant fait appel.
Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand.
Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions.
4 Oscars, dont celui du meilleur film étranger pour À l'Ouest, rien de nouveau, une reconnaissance rare pour un film tourné en langue allemande. Ce film, réalisé par l'Allemand Edvard Berger, est la 3e adaptation du roman éponyme d'Erich Maria Remarque, paru en 1929. L'écrivain s'était inspiré de son expérience sur le front en 1917 pour dénoncer l'absurdité et la folie de la guerre. Alors, si ce film fait écho aujourd'hui à la guerre en Ukraine et rencontre un énorme succès dans de nombreux pays, il est pourtant boudé par le public en Allemagne et même très critiqué dans les médias, Julien Méchaussy.
L'un des plus mauvais films de tous les temps. Difficile de faire pire pour une critique de film. Un jugement publié dans l'un des grands quotidiens berlinois et qui se retrouve dans de nombreux autres médias allemands. Comment alors expliquer ce décalage avec les louanges à l'international ? Le film s'inspire d'un des monuments de la littérature allemande, le roman d'Erich Maria Remarque, souvent qualifié de meilleur roman de guerre jamais écrit. Une œuvre rédigée à la première personne qui retrace l'histoire d'un fantassin dans l'enfer des tranchées. Erich Maria Remarque avait lui-même été blessé au cours de la Grande Guerre et c'est ce que reprochent les critiques ici, avoir pris trop de liberté dans l'adaptation de ce classique pacifiste lu par des générations d'Allemands. Nouveaux personnages, nouvelles intrigue, personnage oublié, le tout produit pour la plateforme américaine de streaming Netflix. Le film s'éloignerait trop de l'œuvre originelle pour être célébré ici. Le quotidien conservateur de la FAZ explique, avec une pointe d'ironie, ce désamour par le fait qu'il existe encore de nombreux lecteurs d'Erich Maria Remarque en Allemagne, contrairement aux États-Unis, à la France ou la Grande-Bretagne, des pays où le film caracole en tête du classement du nombre de visionnages sur Netflix et s'apprête à sortir dans les salles de cinéma.
Enfant en crise, conversation téléphonique décomplexée, le voyage en train peut tourner au cauchemar, que l'on ait besoin de travailler, de se reposer ou qu'on ait seulement envie de profiter du paysage qui défile. Pour retrouver une ambiance plus feutrée dans ces voitures, la Belgique teste en ce moment des zones de silence dans les trains sur deux des lignes les plus fréquentées du pays. Pour permettre aux voyageurs qui le souhaitent de voyager dans le calme absolu, tout bruit est interdit, portable sur silencieux, interdiction de téléphoner et même de parler. L'expérimentation a démarré à la fin du mois de janvier. Jean-Jacques Héry nous emmène à bord du train entre Bruxelles et Liège.
Chers voyageurs, en ce moment, nous effectuons un test dans ce train sur les zones de silence. Dans cette zone, il est interdit de parler ou de téléphoner à voix haute, d'écouter de la musique de manière audible et nous vous demandons de mettre votre téléphone portable en mode silencieux. Merci de votre coopération.
Cette annonce répétée par le contrôleur, on peut maintenant l'entendre à chaque arrêt. La nouveauté est en général bien accueillie par les passagers, comme Rideau, qui arrivait d'Ostende et qui, lorsqu'il est descendu en gare de Bruxelles-Nord, m'a confié être très satisfait de la zone de silence où il avait pris place, la Stilte Zone en flamand, car il avait enfin pu travailler dans le calme, efficacement, sans être dérangé par les sonneries de portable.
Ah oui, je travaille. Hein. J'ai des rapports à lire et c'est difficile de trouver des endroits suffisamment calmes, tranquilles, silencieux pour travailler un peu. Hein. Et quand on est bien focalisé sur quelque chose, vraiment dans l'étude ou dans l'analyse, chaque interruption, chaque fois que la concentration est anéantie ou cassée, ça prend énormément de temps pour à nouveau rentrer dans la matière, moi je trouve.
Vous espérez que ça va continuer, ces zones silencieuses ?
Je suppose, j'espère. C'est bienvenu.
Mais une fois que l'on pénètre dans la voiture silencieuse placée en tête de train, l'interview est plus compliquée, forcément.
Il a fallu chuchoter. Je suis journaliste, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super, c'est calme. Parce que quand vous avez un trajet où il y a des gens qui téléphonent, mais tout haut comme ça, sans gêne, c'est pas agréable, surtout si vous êtes en train de lire. Donc, c'est une bonne idée de faire ça.
Et trois fauteuils plus loin, impossible d'interroger deux autres passagers car ils étaient plongés dans un profond sommeil. Pour le moment, pas d'amende prévue pour ceux qui font trop de bruit. La Société nationale des chemins de fer belge compte sur l'autodiscipline des passagers. Mais Philippe, assis dans la deuxième voiture, là où le bruit est autorisé, juge que c'est un peu illusoire.
Aux heures de pointe, je crois que les gens ne vont pas rester calmes dans le wagon. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a beaucoup de monde, il suffit qu'il y en ait un qui commence à parler un petit peu, et puis moi j'ai l'impression que ça ne risque de pas fonctionner dans les heures de pointe. Mais c'est mon avis.
L'expérimentation va durer jusqu'au 31 mai sur deux lignes de train parmi les plus fréquentées de la Belgique et qui passent par les plus grandes villes du pays comme Gand, Bruxelles ou Liège. Et puis ensuite, cela dépendra des retours des voyageurs qui sont invités à remplir un questionnaire. Mais du côté de la SNCB, la Société nationale des chemins de fer belges, on estime que cela répond à un vrai besoin. Écoutez sa porte-parole, Marianne Yernaud.
30% de nos voyageurs disent même qu'ils prendraient plus fréquemment le train s'il y avait des zones silencieuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut pousser aussi certaines personnes à prendre davantage le train.
Pour le moment, rien n'est donc décidé, mais il n'est pas impossible que l'on voit se généraliser dès cet été ces wagons silencieux sur d'autres lignes belges, en fonction aussi de la capacité des trains.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez vous abonner et retrouver le podcast de l'émission sur rfi.fr ou sur votre plateforme de streaming. À bientôt.